Vous êtes dans le show Wake Up, Ismaël Trépanier, Christian Dallaire sport, Anne-Marie Delcambre au bout du fil. Bonjour Madame Delcambre, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien.
Ouais.
C'est beau, j'ai apprécié.
Ouais, hein? Mais je dois quand même rendre aux Américains, Madame Delcambre, ce qui leur revient de droit. Je me pose la question, en quoi c'est mal d'être impérialiste?
Ah ben non, mais moi je ne trouve pas ça mal du tout, loin de là.
Parce que si eux ne sont pas impérialistes, qui le fera à leur place? Et d'une manière peut-être plus d'une manière plus dure que ce que soi-disant personnages dans les hautes sphères de l'Europe disent que c'est des dangereux, c'est des malades, ils pillent les jardins des autres, comme bon leur semble.
Mais ça c'est un raisonnement gauchiste.
Et voilà. Alors, de quoi allons-nous discuter ensemble, Madame Delcambre, ce matin?
Je vais relier justement ces événements du 11 septembre aux mensonges qu'on est en train de nous forcer à entendre. Et je vais parler, évidemment, j'ai botté des culs.
Oh, yeah.
Je vais parler des deux frères Benchek. Les deux frères Benchek, on prononce, ça s'écrit Benchek, B-E-N-C-H-E-I-K-H, okay. Raleb, Galeb, Ous et Soheb. Et les deux frères Benchek, ils s'entendent à merveille pour présenter aux Français un islam que les musulmans eux-mêmes ne reconnaissent pas, pour la bonne raison qu'il n'existe pas. Et c'est un bel islam qu'ils présentent, c'est-à-dire que tout ce qui pourrait choquer, inquiéter le non-musulman, eh bien, c'est soigneusement gommé. Et pour eux, les attentats du 11 septembre 2001, mais non, ce n'est pas l'islam. Les auteurs de l'attentat, bon, bien sûr, ce sont des barbus sans culture, mais absolument pas les musulmans modérés. L'islam est une religion d'amour et de tendresse, a dit Soheb Benchek. Il a été élevé chez les religieuses, c'est pas vrai. Parce que notre mufti, c'est l'ancien mufti de Marseille, qui a été d'ailleurs interviewé sur une des radios de chez vous.
Oui.
Eh bien, il est spécial, parce qu'un mufti, c'est quelqu'un qui donne des consultations de droit, qui est un juriste, c'est un homme religieux. Eh bien lui, il n'est pas du tout content qu'en France, les lieux de prière soient bondés. Il dit ceci, « Je suis imam et pourtant je ne m'en réjouis pas. Mon rôle aujourd'hui est plutôt de freiner cette pseudo-religiosité. » C'est lui, il écrit ça. Mais il continue, « Le voile est une fausse route pour les jeunes musulmanes. Rien dans le Coran ne leur impose d'afficher ainsi leur foi. Le voile conduit trop souvent à des comportements inquiétants, comme le refus de la mixité, de l'égalité des sexes, des cours de biologie ou de sport. » Oui, il dit ça, il dit vraiment ça. Et il parle en français, donc c'est pas une erreur de traduction. Je le répète parce que je crois rêver, là. Il dit « Le voile conduit à des comportements inquiétants, comme le refus de la mixité, de l'égalité des sexes, le refus des cours de biologie ou de sport. » C'est énorme ce qu'il dit. Parce que moi je veux bien que ça soit... Ça arrange Sarkozy, ça arrange tout le monde, ça arrange les merdias. Mais le voile, c'est dans le Coran. Vous ouvrez la sourate 24, verset 31, et vous lisez « Dis aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, qu'elles rabattent leur voile sur leur gorge. » Et le mot qui est employé, ah bien sûr c'est pas le mot hijab, c'est le mot khumur, c'est le pluriel de khimar. Et j'ai trouvé ça chez Boukhari, dans le commentaire de Boukhari,
okay, qui
est du 9e siècle, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier. Eh bien, monsieur Benchek, non. Et si vous regardez la fin du verset, qu'est-ce que vous lisez, la fin du verset de la sourate 24, verset 31, la fin du verset 31, que les croyantes ne frappent pas le sol de leurs pieds pour montrer les atours qu'elles cachent. Qu'est-ce que... Voilà, yadribna, bi arjulihinna, li yu'lama, etc. Ça veut dire qu'elles portent des robes longues. De même, quand vous avez le mot jilbab, pluriel jalabib, qui est utilisé pour parler du voile, c'est une grande robe qui va depuis le haut jusqu'en bas. Alors, monsieur Soheb Benchek, c'est un mufti moderne. Pas de voile, même si c'est écrit dans le Coran. C'est pas possible, je me dis, mais il est docteur en théologie, il a fait ses études où? À l'Institut catholique, c'est pas vrai. De même pour le djihad. Les deux frères, ils n'ont jamais entendu parler du djihad guerrier. Jamais.
Mais
pour
Souhaïd,
il dit, oui, il y a bien un verset qui fait allusion au djihad dans la sourate 2. Il ne cite même pas le verset.
Madame Delcambre,
oui,
un instant, là. Je vous arrête là parce que Vous savez, là, il faut plusieurs années là, d'études là, pour dire que justement le Coran c'est dangereux. Hein. C'est ce que c'est ce qu'on m'a répondu tout à l'heure parce que j'ai appelé au centre islamique de Montréal et une femme. Vous réécouterez la rediffusion. Vous allez voir, c'est délectable d'entendre à quel point ils essaient de nous endormir d'une
et
façon.
Moi, ça me donne des envies de meurtre parce que quand vous entendez un moufti dire, oh, mais vous savez, le djihad, d'abord, c'est l'effort, il nous redonne la sauce, c'est l'effort contre ses propres passions. Et il dit ceci, c'était une conférence ou une interview, je l'ai sur le forum. Il dit, la sourate 2, il y a combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent et n'agressez point Dieu, Dieu n'aime pas les agresseurs. Il ne donne pas le verset, je l'ai retrouvé, c'est le verset 186 ou 190. Okay. Mais il y en a beaucoup des ordres de mener combat dans le chemin d'Allah. Il y a même tous les ouvrages de fiqh, de droit musulman, il y a chaque fois un passage, un chapitre consacré à la guerre sainte. D'ailleurs, là où c'est incroyable, c'est qu'un jour, il a dit ça devant une dame. Il dit, vous savez, nous, c'est uniquement la guerre défensive, le djihad défensive. Et il y a une femme qui lui a dit très gentiment, vous avez tout de même fait beaucoup de kilomètres en vous défendant pour arriver de Médine jusqu'à Poitiers. C'est-à-dire, à force de dire ça, et là, il a été totalement scié par la remarque de cette dame.
Okay.
Parce que le moufti de Marseille va si loin dans son obsession de dire « c'est pas ça l'islam, c'est la religion d'amour et de tendresse », que les musulmans de Marseille se sont révoltés. Je vais vous raconter ça parce que c'est trop délectable. Figurez-vous que le 19 juin 2003, un article dans le journal Provence paraît intitulé « Le mufti de Marseille veut un autre islam de France ».
Et l'article... Un autre islam de France, là?
Oui, un autre islam.
Mais
ça ferait l'islam de
là.
France. Et alors, voilà ce que dit l'article. « Monsieur Soureb Benchir, dit l'article, a toute latitude, c'est-à-dire il a la permission, pour défendre sa vision personnelle de l'islam de France. En revanche, il n'est pas admissible que le développement de ses idées s'accompagne d'un dénigrement systématique des musulmans pris dans leur ensemble ou à travers leurs pratiques cultuelles pour laquelle ils manifestent un manque total de respect. Autrement dit, les musulmans se révoltent en disant « Bon, monsieur le moufti, monsieur Soureb Benchir, vous avez le droit de créer un nouvel islam, un islam de France, mais vous n'avez pas le droit pour faire cela de nous critiquer, de critiquer en quelque sorte la pratique des musulmans, la pratique cultuelle, ou alors avoir un manque total de respect pour cette pratique. C'est grave, parce qu'il est le mufti de ces musulmans. Et il est vraiment... Alors, attendez, ça va beaucoup plus loin. Parce que, effectivement, un tel mufti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interdire le voile, décourager les boucheries musulmanes, il va encourager le mariage de la musulmane avec le non-musulman, il va dire aux musulmans d'apostasier, il va le conseiller de se faire incinérer au lieu d'être enterré dans les carrés musulmans, vous savez, à même la terre. Est-ce qu'il va conseiller d'aller à Lourdes, ou je ne sais pas moi, au lieu d'aller à la Mecque faire le pèlerinage, ou d'avoir un bon sandwich jambon beurre et une bonne bière?
Oui. Toujours
c'est
bon.
Possible. Tout ça pour plaire à Sarkozy ou à Chevènement, Monsieur Soureb Benchir serait capable de le faire. Mais je veux dire, là où il a dérapé, il est allé fort loin. Il a écrit ceci dans ce même article de Provence. Écoutez bien ce qu'il a dit.
Je vous écoute.
Il dit, et les musulmans, ils ont lu ça et ils sont devenus fous. On devient pratiquant, trop pratiquant, puis juge des consciences, et un jour on passe à l'acte. Il n'y a qu'à voir le 11 septembre, ou les arrestations quotidiennes en France, pour comprendre que la frontière entre la pratique et le terrorisme est flexible. Je n'ai jamais vu un terroriste sortir d'un cocon blanc. Vous vous rendez compte ce qu'il a écrit?
Oui.
Et alors, il a dit ça, parce que parfois il a des accents de franchise que son frérot, il n'a pas. C'est comme dans les frères Ramadan, c'est Annie le plus franc et le plus direct. Il a dit, il y a la lapidation, c'est chez nous. Mais disons que Tariq, il est plus diplomate. Alors là, le moufti, il est allé fort loin. Et les musulmans de Marseille, ils ont dit, comment vous instaurez un lien entre la pratique de l'islam et le terrorisme? Vous faites un amalgame qui est dangereux entre musulmans et terroristes. Et la coordination des musulmans de Marseille a envisagé de donner les suites qu'elle jugerait utiles pour défendre l'honneur et la dignité des citoyens de confession musulmane, ainsi que pour préserver la paix sociale. Eh bien, voilà, ils sont prêts à... ils vont aller faire une action en justice, même contre leur propre mufti. Et quand on leur dit, mais bonsoir de bonsoir, il y a quand même bien un lien entre le terrorisme et le fait d'imiter le prophète ou de lire certains versets du Coran. On vous répond, ah, attention, c'est amalgame, c'est pas possible, jamais. Mais je dis, ou ils sont fous, schizophrènes, ou ils sont parfaitement malhonnêtes. Il y a un lien. Et moi, je me dis, je passe mon temps sur Rokik à dire, avez-vous fini de mentir? Nom de Dieu, mais ne mentez pas. Il y a un lien. C'est-à-dire que si l'on voit certains versets, si l'on prend certains passages de la vie du prophète, il y a un lien. Et pour une fois, je dis, Souhaib Ben Chiri, il a été franc, il a dit, je n'ai jamais vu un terroriste sortir d'un cocon blanc. Et je regrette, enfin, tu veux dire, ceux qui jettent des bombes, etc., c'est pas l'anglais, le danois, le suédois du coin. C'est tout de même bien souvent les gens de confession musulmane, nom de Dieu, bonsoir. Et figurez-vous que j'écoutais hier sur France 2 l'évêque latin d'Irak, Benjamin Slimane. Il était interrogé par le focus du journal La Croix, qui lui a dit, voilà, ce sera bientôt le 11 septembre, vous qui êtes nommé l'évêque latin d'Irak, il s'appelle Benjamin Slimane, dont je l'ai dit, que pensez-vous? Et le Libanais d'origine, il n'osait pas, on sentait qu'il voulait dire des choses pour défendre les chrétiens d'Orient. Mais voilà, alors il a dit, mais quel est votre message, monseigneur? Il a dit, mon message, c'est Occident, n'oublie pas ton Orient.
Attendez,
je me dis, mais voilà un prêtre, un évêque, qui vient interroger devant les médias occidentaux et qui n'ose pas dire que les chrétiens fuient l'Irak, qui n'ose pas dire que ça, c'est directement la conséquence de l'islam, non pas l'islam sorti du cerveau de M. Souhaib Ben Chir, qui est un islam qui n'existe pas, mais de l'islam pratiqué depuis un millénaire par des juristes chevronnés, qui s'appuient sur le Coran et la Sunna, c'est sacralisé, puisque si j'ouvre les 40 hadiths de Nawawi, et je vois que les savants, les juristes sont au niveau des martyrs, et qu'on ne peut rien changer, puisque je vois qui innove dans notre religion sera rejeté. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu. On trouve encore man amida amala naysa alayhi amruna fahuwa raddun, c'est-à-dire celui qui veut changer quelque chose, eh bien ce n'est pas possible, il sera considéré comme un hérétique et quick. Alors attendez,
on lui coupe les hypocrisies.
Il n'y a pas que Souhaib, encore parfois Souhaib, il a eu un accent de vérité. Son frère, c'est une merveille, son frère, il ferait pâlir de jalousie le plus diplomate des jésuites. Khaled Ben Chir, il a une émission du dimanche matin sur France 2. Et alors figurez-vous que ce qu'il a fait, c'est génial. Il a fait venir un imam et il a dit, qu'est-ce que c'est que la foi en islam? Or la foi, ça se dit en arabe, iman, accent circonflexe, M-A, accent circonflexe, N, iman, pas imam, hein, iman, il y a un N qui termine. Et qu'est-ce que c'est la foi? Écoutez bien, c'est croire en Dieu, en ses anges, en ses livres sacrés, en ses prophètes et au jour dernier. Parfois on peut ajouter la prédestination. Et en arabe ça fait al-iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir. Vous entendez ça, vous dites, waouh, on parle pas de djihad, on parle pas de martyr, on parle pas de voile, on ne parle pas d'interdit. Non, c'est simple, c'est presque comme le je crois en Dieu chez nous. C'est modéré, hein.
Oui,
c'est
compatible très modéré.
Avec la laïcité, mais avec la modernité. C'est croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, et au jour du jugement dernier. Seulement ce qu'ils oublient de dire, c'est que c'est pas seulement cela l'islam. L'islam n'est pas seulement une foi, c'est également une loi. Et la preuve, la loi, c'est la religion. Parce que j'ai vu, qu'est-ce que c'est que par exemple faire le ramadan, faire le pèlerinage, donner l'aumône, faire la prière, ça s'appelle Arkan al-Islam, les piliers de l'islam. Arkan al-Din, autrement dit, la foi, c'est une chose, mais ce n'est rien si vous n'avez pas la loi, si vous n'avez pas la pratique. Or, les frères Benchir, les frères Dalton, se gardent bien de parler de la loi. Ou plutôt, ils en parlent, mais écoutez comment, vous êtes assis, il faut voir comment...
Attendez, un instant, là, j'étais... Oui, c'est bon, Madame Delgande.
Vous allez voir comment ils en parlent.
Je suis bien assis.
Moufti de Marseille.
Oui.
Moufti, ça veut dire qui dit le droit. Afta, youfti, c'est délivrer des consultations juridiques. C'est dire ce qui est licite, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Les fatwas, pluriel fatawa. Eh bien, ils parlent de sa matière, ils parlent de l'interprétation moyenâgeuse de l'islam. Il veut désacraliser la théologie. C'est un vrai protestant, ce mec, hein. Il dit, c'est comme son frérot, ils ont dû se concerter. Il affirme, la théologie n'est pas la foi. La foi, c'est le mystère qui transcende l'homme et son intelligence. La théologie, c'est-à-dire le droit musulman, c'est une tentative d'élucider, de rendre la foi compréhensible par l'homme. Vous imaginez, c'est un peu comme si je vous disais, ben vous savez, moi, imaginez un avocat qui vous dit... Ben vous savez, Ismaël, le droit, hein, c'est de la merde.
Oui, tout à fait, j'achète.
Ça sert à rien. Vous feriez mieux de faire un petit arbitrage, là. Rien ne vaut un bon arbitrage. C'est pas du tout bien de prendre un avocat, ça coûte toujours très cher. Non, mais vous vous dites, il est malade, ce mec-là. C'est pas possible, ça va pas. Eh bien, Souhaib Benchir, il fait un peu la même chose. Et alors, je me suis dit, mais est-ce qu'il sait ce que c'est que le droit musulman? Ben, figurez-vous que je crois que oui. Parce qu'il écrit... Les hommes du GIA, vous savez, le GIA, c'est le groupe islamique armé en Algérie. Les hommes du GIA ne sont pas fous. Ils agissent d'une manière très canonique. Il emploie le mot canonique, c'est-à-dire très légal. Très légal au sens de la loi islamique. Hein. C'est pourquoi, dit-il, on les voit aussi bien en train de prier que de violer. Ah ah, mais qui ils imitent quand ils prient ou quand ils violent? Je vous laisse la réponse, notre noble prophète. Dans cette même logique canonique qui continue datant des temps ancestraux, tu parles, comme l'islam ne bouge pas, c'est idiot d'écrire ça, idiot. La femme fait partie du butin de guerre. Le droit musulman, alors il en parle quand même, hein, n'autorise pas des relations sexuelles en dehors du mariage avec une femme libre. En revanche, les relations sexuelles sont permises avec des esclaves, car ces dernières font partie des biens. Il peut en faire ce qu'il veut. Donc il connaît le droit musulman. Mais au lieu de dire ça existe et ce n'est pas compatible avec la laïcité, il dit ça n'existe pas. Et ça, il continue, parce que vraiment, il dit les talibans, continue Souhaib Benchir, appliquent un droit musulman qui est le fruit d'une œuvre humaine non divine, élaborée du 9e au 12e siècle et qui a été sacralisée. Et ils osent appeler cela charia. La charia est un mot mystique, c'est la voie qui mène à Dieu. C'est honte, et il continue, le seul texte sacré d'islam est le Coran, l'interprétation n'est pas sacrée. Vous imaginez, il dit ça devant des gens, des cathos qui ne savent même pas ce qu'est l'islam. C'est affreux, parce que d'abord, il y a des erreurs grossières.
Premièrement, c'est ça, Madame Delcambre, les gens vont avaler, un peu comme on gave les oies. Hein?
Mais exactement, il y a des erreurs, Ismaël.
Oui, exact.
Il dit, le droit musulman n'a pas été élaboré entre le 9e et le 12e siècle. Il a été élaboré entre 750 et 850, par quatre écoles juridiques. Deuxièmement, quand il dit les grands jurisconsultes, les grands traditionnistes, que c'est sacralisé et que normalement c'est humain, c'est pas vrai parce que, voilà ce que dit Boukhari lui-même et tous les savants, ils disent, les savants sont les secrétaires d'Allah auprès de ses créatures. Les savants sont les successeurs des prophètes. Honorez les savants, ils sont les héritiers des prophètes. Vous savez, un peu comme le prêtre chez nous. Et cette sacralisation du fiqh, manifestement, Benchir, le franco-algérien Souhaib Benchir, il ne comprend pas. Il dit, il faut désacraliser le droit musulman. C'est comme si tout d'un coup vous aviez quelqu'un qui ne comprend pas le catholicisme et qui vous dirait, oh, il faut absolument désacraliser les prêtres parce qu'ils sont célibataires, ils sont là, ils disent qu'ils représentent Dieu, mais il faut les désacraliser, les envoyer à la mine travailler, les faire épouser une femme pour qu'ils baisent un peu et qu'ils soient plus au courant de... qui se fait dans le monde. Vous voyez, c'est-à-dire que, manifestement, Souheb Benchir ne comprend rien au droit musulman. Et alors, je vais vous le démontrer tout de suite. Dans une interview donnée en mai 2000,
oui.
J'en avais déjà parlé, à un hebdomadaire algérien. En arabe, ça s'appelle Al-Khabar Al-Usbu'i, la nouvelle hebdomadaire, numéro 61, page 19. Il y a quelqu'un qui l'interroge, hein. Vous savez, un journaliste algérien, un peu hypocrite. Il lui dit, alors vous êtes moufti en France, et patata, papa. Il dit, ou l'autre, il répond, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, j'ai beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de mariages entre les musulmanes et les non-musulmans. Et il continue, mais voilà, moi, je ne me sens pas le droit d'exiger le divorce de la musulmane. Et il a cette phrase, je cherche simplement l'agrément de ma conscience.
Ah, ok.
C'est sympa pour le plan universel, seulement ça dit. Et tout d'un coup, il y a un imam d'Algérie, Shamseddin, ça veut dire soleil de la religion, qui lui répond dans le numéro suivant, avec une violence, mais alors, extrême. Il traite Souheb Benchir d'imam qui trafique les textes, de faux imams, d'imams de la Tour Eiffel. Et bah, pourquoi? Mais parce que ça n'existe pas, toute innovation est blâmable. Il y a des textes, il faut les appliquer. C'est exactement comme je vous ai dit, un avocat qui dirait, écoutez, non, Ismaël, bon, vous avez votre affaire, vous faites un petit arbitrage, vous avez parlé à Damien Delcamp, mais ne venez pas me voir, moi je peux rien vous dire, hein. Faites-le selon votre conscience. C'est aberrant. Il n'y a pas plus professionnel, il n'y a pas plus réglementaire que le droit musulman. Et c'est pour ça que je dis, les Occidentaux n'ont rien compris au droit musulman. Ils ont pensé que c'était pas le droit.
Mais Madame Delcambre, vous avez entendu autant comme moi Marie-France Bazot et tout le long de l'interview.
Elle était malade.
Elle fait attention à si. Non, je ne voulais pas dire que vous étiez impliqué. Non, je ne voulais pas dire
mais
si.
Mais bien sûr, mais c'est un peu. Mais c'est ça,
la merde.
Comme baladeur. Voilà, j'ai écouté deux fois l'interview. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi complaisant ou con-complaisant. Faut choisir.
Mais vraiment,
j'ai pas compris.
Complaisant, con.
Voilà, exactement. Voilà, on l'écrira presque en deux mots. Parce que, vous voyez que les Occidentaux n'aient rien compris au droit musulman. C'est normal, parce que si vous ouvrez un traité de droit musulman, on parle de l'ablution, comment nettoyer l'anus avec de l'eau ou des cailloux, on parle de la prière, on parle de la vente, on parle de succession, on parle de la guerre sainte, on parle comment couper la main du voleur, le partage du butin, donc ils se disent, c'est pas du droit, c'est un fourre-tout. Quant aux musulmans occidentalisés qui comprennent rien, qui ont peut-être ils ont fait leurs études chez les religieuses, je sais pas quoi. Ils disent, oh ben non, c'est pas un droit religieux. On y parle des décisions de justice, on y parle des témoignages, on y parle des ventes, on y parle des contrats. Tout le monde se trompe. Et tout le monde se trompe parce qu'ils n'ont pas compris que les grands jurisconsultes, fondateurs des quatre écoles entre le 8e et le 9e siècle, Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Shafi'i ibn Hanbal, ils ont fait un effort colossal, ils avaient quelque chose à la tête, hein, pour dégager les commandements d'Allah, les commandements divins à partir du Coran et à partir de la Sunna, et de les expliciter, de les rendre accessibles. Or, il devrait savoir, Souheb Benchir, que le droit musulman, il plonge ses racines, usoul, dans le Coran et dans l'exemple du prophète. C'est-à-dire que le mensonge des deux frères Dalton, c'est de laisser croire que l'islam est seulement une foi. C'est pas vrai. L'islam ne se résume pas à la foi, il se complète par la loi. C'est pas seulement une foi, iman, l'islam c'est aussi une religion dîne et c'est une loi. Sans loi, il n'y a pas de religion musulmane organisée. C'est seulement un truc, ah oui, je crois en Allah, c'est-à-dire qu'on est tous pareils. Alors, les frères Benchir, ils ne parlent pas de la loi, mais ils sont très intelligents. Ils ne parlent pas de la loi. Pourquoi? Parce que les chrétiens, les cons de chrétiens, je dis bien, ils sont incapables de comprendre qu'une loi vienne de Dieu. Déjà, ils vomissent la loi. La loi juive, ils n'ont pas digéré. La loi juive, pour eux, c'est les pharisiens. Les pharisiens, Jésus était mieux que les pharisiens. C'est la phrase de saint Augustin, le berbère, là. Aime et fais ce que tu veux. Vas-y, mon pote, vas-y. Et donc, savoir qu'il y ait une loi d'islam, pour eux, ils n'arrivent pas à comprendre qu'une loi soit quelque chose qui soit religieux. Et effectivement, cette loi, elle va s'opposer à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qu'on ne veut pas dire, c'est que la loi islamique, elle s'oppose directement exactement à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. La philosophie est radicalement différente. Et je vais vous dire, si vous regardez, les musulmans, ils savent qu'il y a la Déclaration de 48. Ils en ont fait une, alors, ils en ont fait une à eux, la Déclaration universelle des droits de l'homme en islam, proposée par le Conseil islamique d'Europe, dont le siège est à Londres, et qui a été promulguée en 1981. C'est une parodie, vraiment, de déclaration universelle. Parce que vous allez voir, ils disent, pour l'islam, tout découle de la loi. Voilà, alors, parce qu'eux, ils ont traduit leur manière, personne ne s'est méfié. La loi, ben, vous savez, vous aussi, si je vous dis, Ismaël, vous devez obéir à la loi, vous allez dire oui.
Non, non. Vous me connaissez mal. Vous me connaissez très mal.
Mais ils ont mis un petit renvoi que personne n'a vu. Il y en a. Oui. C'est la loi islamique. Et il y a le père Bormans qui a traduit, c'est un très bon arabisant, et ça donne ceci quand c'est bien traduit. Pour l'islam, tout découle de la loi divine. Et les droits de l'homme, ce sont ceux que l'on peut déduire du très noble Coran et de la très pure tradition prophétique, c'est-à-dire de la sunna. Et c'est pas moi qui le traduis, c'est le père Bormans qui fait partie du dialogue islamo-chrétien, excellent arabisant et excellent juriste. Il dit... C'est écrit dans leur déclaration universelle islamique. Pour l'islam, tout découle de la loi divine. Et les droits de l'homme, ce sont ceux que l'on peut déduire du très noble Coran et de la très pure tradition prophétique, entre parenthèses, sunna. Il a fait exprès, le père Bormans, ça doit être un malin, de tout traduire comme c'est exactement. Alors l'article 3, écoutez bien, le droit à l'égalité. Vous allez
le droit à l'égalité, ok.
Alors vous allez voir, riez pas trop, hein.
Non.
Tous les humains sont égaux devant la loi islamique. Si Fatima, la fille de Mohammed, venait elle-même à voler, on lui couperait aussi la main.
Texto.
Écoutez bien. Article 4, le droit à la justice. Personne n'a le droit de contraindre un musulman à obéir à un ordre contraire à la loi islamique. Si le musulman se voit ordonné de pécher, il ne doit ni soumission ni obéissance.
Bah oui.
Dans ce cas, attendez, il a le droit de voir sa communauté refuser elle aussi d'obéir à un tel ordre, par solidarité envers la vérité. Tout musulman est le frère de tout autre musulman, il ne saurait être injuste envers lui et ne saurait le livrer à autrui. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que les musulmans se sentent musulmans, ils ne se sentent pas obligés d'obéir à quelque chose de contraire à leur loi. Mais alors, c'est l'article 12 qui va vous faire rouler par terre de rire. Le droit, alors là, quand je vois celle qui a interviewé Benchir, elle peut aller se cacher dans le Kajibi. Le droit à la liberté de pensée, de croyance et de parole. Alors écoutez bien ce qu'ils disent. Le droit d'expression est permis, alors il commence, le petit chapeau, papapam, papampam, aussi longtemps que ce droit s'en tient aux limites que la loi islamique a stipulées en la matière. Personne n'a le droit de propager l'erreur ou de diffuser ce qui serait de nature à encourager la turpitude ou à avilir la communauté islamique. Et alors la suite, c'est un verset du Coran. Écoutez bien, si les hypocrites, ceux dont les cœurs sont malades, ceux qui fomentent des troubles à Médine ne se tiennent pas tranquilles, nous te lancerons en campagne contre eux, c'est Dieu qui parle à son prophète,
d'accord.
Et ils ne resteront plus longtemps dans ton voisinage. Mais c'est la fin de la sourate, sourate 33, verset 60 ou 61, c'est la fin qui est intéressante, parce que si les hypocrites, etc., ne se tiennent pas tranquilles, nous te lancerons contre eux, etc., c'est pas méchant, mais la fin, elle est terrifiante pour la liberté d'expression. Maudits en quelques lieux où ils se trouveront, ils seront capturés et tués. Et en arabe, ça donne ceci, mal'onina, aynama, tukifu, Ukhizu wa kuttilu taktilan. Ça veut dire, littéralement, maudits ils seront, où qu'ils soient, ou quel endroit où ils se trouveront, Ukhizu, ils seront pris. Wa kuttilu taktilan. Ça veut dire, qattala, c'est le passif de qattala, Ça veut dire ils seront tués, mais tués en petits morceaux. J'ai le complément absolu. Tués, de, vous voyez, c'est-à-dire brisés en mille morceaux, complètement découpés. En... Ah. C'est ça, la exactement. Kutilu taktilan. Si je dis, par exemple, il l'a frappé, Dorabahu Dorban Shadidan, c'est-à-dire qu'il l'a frappé, mais alors vraiment, une vraie volée de... Et là, il sera tué, celui qui, en quelque sorte, aura une liberté de pensée, mais une liberté de pensée qui n'est pas acceptée. Et quelle est la liberté de pensée qui n'est pas acceptée? C'est ceux qui propagent l'erreur, qui diffusent ce qui serait de nature à encourager la turpitude ou à avilir la communauté islamique. Ça veut dire qu'on n'en a plus aucune. Dès qu'on commence à critiquer la communauté, c'est fini. On n'a plus aucune liberté. Donc c'est grave, ça veut dire qu'il n'y a pas, je répète ce qui est marqué,
s'il vous plaît.
Le droit d'expression est permis aussi longtemps qu'on s'en tient aux limites que la loi islamique a stipulées en la matière. Personne n'a le droit de propager l'erreur, alors pour eux ce qu'on propage c'est l'erreur, hein, ou de diffuser ce qui serait de nature à encourager la turpitude ou à avilir la communauté islamique. Et si on le fait, c'est la fin de du verset 60 ou 61 de la sourate 33. Maudit on sera, où que l'on se trouve, on sera pris et découpé et tué. Kutilu taktilan, on sera tué, mais d'une manière, vous voyez, c'est-à-dire tué, bien tué, hein, c'est-à-dire pas tué comme ça, hop, un simple petit coup.
Attendez un instant, Madame Delcamble, c'est quelle sourate, la 33,
sourate 33,
laquelle, verset?
Sourate 33, verset 60 ou 61.
60-61, attendez, je suis presque arrivé
dessus. Prenez la sourate 33, okay. Et prenez soit le verset 60, soit le verset 61 qui commence comme cela.
J'ai 61 ici, là, ce sont des maudits.
Si les hypocrites, ça commence comme ça, si les hypocrites, ceux dont les cœurs sont malades.
Ok, je suis, c'est bon.
Voilà, ceux qui fomentent des troubles à Médine ne se tiennent pas tranquilles, nous te lancerons en campagne contre eux et ils ne resteront plus longtemps dans ton voisinage. Et arrive la fin. Maudits en quelque lieu où ils se trouveront, ils seront capturés et tués. Vous l'avez?
Oui, impitoyablement.
Alors voyez, moi je... Alors là, ils ont rendu ce que j'appelais, moi, le complément absolu. Ah, bravo Ismaël. Bravo Ismaël. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que, voyez, écoutez le taktilan, c'est-à-dire le complément absolu qu'on appelle en arabe mafou, le mutlak.
Ok.
C'est-à-dire que, par exemple, si je dis la mahou, Laouman Shadidan, il l'a blâmé d'un blâme, il l'a vertement blâmé, d'ailleurs d'une manière très forte. Très très bonne traduction que vous avez.
Ah, je
C'est-à-dire que c'est pas ils seront tués. Non, c'est impitoyablement, sans pitié.
Sans pitié.
Sans pitié. C'est ça la liberté d'expression, Ismaël?
Non, c'est la mort pure et dure, d'une manière gratuite et sans discussion. Sans discussion.
Et ça, c'est pas moi qui le mets, c'est dans la déclaration qu'ils ont fait paraître, traduite par un dialogue, par un partisan du dialogue islamo-chrétien, la déclaration qui juste... Ils se sont dit, mais nous, on est aussi libéraux que les Occidentaux.
Aye,
je pense? Vous voyez pourquoi je suis furieux.
Madame Delcamp, vous avez raison. Regardez, j'analyse aussi la 62, le verset 62 de la sourate 33. Et
oui.
Il est clair que ces gens-là ne veulent pas changer du tout. Hein. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah.
Oh, bravo, Ismaël, franchement. Alors, Ismaël, à partir de maintenant, je déclare que Souheb Benchir est déchu comme un moufti et que vous le remplacez. Non, parce que, si vous voulez, le problème, pour moi, ce qui m'énerve,
oui.
J'ai envie de répondre à Célestin. Moi, que Souheb Benchir décide de changer l'islam, je m'en contrefous. Mais ce qui est grave, c'est qu'on présente quelque chose qui n'existe pas.
Et
mais
voilà.
C'est ce que j'ai dit, par exemple, si je dis, moi, par exemple, si je parle du catholicisme à quelqu'un qui n'est pas croyant, je lui dis, oh ben vous savez, moi je crois que les curés, ils peuvent épouser qui ils veulent. Bon, je ferais peut-être plaisir aux concubines de curés, mais ce n'est pas la vérité. Est-ce que vous voyez, je veux dire, ça n'existe pas. Je ne peux pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Or, ce que présentent les deux frères Benchir, ça n'existe pas dans le monde musulman. On considère qu'un changement n'est pas possible, sinon on est hérétique, qu'il y a des textes, que ce qui a été écrit en droit musulman entre le 8e et le 9e siècle, c'est sacralisé, parce que, et c'est ce que dit d'ailleurs, vous verrez, dans les hadiths de Nawawi,
oui.
C'est-à-dire que, eh ben, c'est que, en fin de compte, les savants, les religieuses sont au niveau des martyrs. Et même il y a quelqu'un qui dit qu'il souhaite le jour où il ressuscitera, eh bien, d'être ressuscité, comme juriste ou comme... C'est très, très important, les hommes de religion.
Je peux rajouter...
Et là, eux, ils sont en train de présenter, c'est ce que j'ai dit, ils sont en train de présenter j'ai mis ça sur le forum, une sorte d'islamo-christianisme. Et les gens disent, mais c'est ça l'islam, ben alors on s'en fiche, c'est presque pareil que le christianisme, c'est pas okay. dangereux. Non, okay. non, mais c'est ça qui est grave, c'est que les gens ne comprennent pas.
On manipule l'information.
Le 11 septembre, c'est quoi le 11 septembre, pourquoi, c'est pas possible. Et l'autre, il continue sa chanson, eh ben c'est un islam, l'islam c'est une religion d'amour et de tendresse.
Parce que regardez, je rajoute ceci aussi, toujours dans la sourate 33.
Monsieur le Moufti.
Si on tombe sur le verset 64, est-ce qu'il faut avoir, Madame Delcamp, 5 ans d'études de cette science, qui est le Coran, parce que c'est ce qu'on m'a répondu tout à l'heure, selon une femme dans un centre islamique quelconque à Montréal. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise. On tombe à la 65, le verset 65, toujours de la sourate 33, pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni allié ni secours. Est-ce qu'il faut 5 ans d'études pour vraiment comprendre que ceci est violent, que ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui ne pratiquent pas le Coran et que si, justement, ils ne se soumettent pas à cette religion-là, qu'ils vont périr dans une fournaise? Est-ce que j'ai compris, là?
Évidemment. Et c'est ça, moi, qui m'énerve contre... C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils nous prennent vraiment... Moi, c'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Il y a une paix sociale pour, comme ils ont dit, les musulmans là de Marseille. Il ne faut pas toucher, chacun a le droit de pratiquer, il ne faut pas... Mais c'est affreux. Mais à ce moment-là, je vais dire une chose, il ne fallait rien dire aussi à l'époque de Hitler, parce qu'il y avait un danger, il y avait des nazis, très élégants qui, en quelque sorte, connaissaient la musique classique, écoutaient Beethoven et tout, il ne fallait rien leur dire. Moi, je trouve ça absolument ahurissant. Il y a des trucs qui ne passent pas, qui ne passent absolument pas. Et ce n'est pas le droit musulman, puisque le droit musulman plonge ses racines dans le... Même s'il supprime le droit musulman, il restera le Coran et l'exemple du prophète. Et vous ne pouvez pas empêcher que s'il y a 1% même seulement de tous les musulmans de se référer au texte, puisque c'est le Coran et la parole de Dieu, mais qu'ils enlèvent justement ce dogme que le Coran est la parole de Dieu et on aura changé quelque chose. C'est ce qu'a dit Marie-Thérèse Urvoy. Le jour où quelqu'un se lèvera et dira « Le Coran n'est pas la parole de Dieu, c'est uniquement inspiré par... » Bon, à la limite, vous voyez, inspiré. À ce moment-là, on aura changé les choses. Mais tant qu'il dit « C'est la parole dictée par Dieu », on est toujours dans la merde. Est-ce que je me fais bien comprendre?
Très bien. J'ai une question de la part de nos auditeurs, Mme Delcamp.
Oui.
Il y a Flo ici qui nous dit... question, est-ce que cet homme-là, Ben Sheikh, quelque chose comme ça, ne manipulerait pas... il ne manipulera pas les formations histoire de faire une conversion, augmenter les conversions à l'islam.
Je me suis posé la question. Il y a eu il y a eu Optimus Prime sur le forum qui a une très bonne remarque. Il a dit il y a deux solutions. Soit c'est vraiment quelqu'un qui effectivement joue un peu un rôle de protestant, c'est-à-dire qu'il va essayer de refaire un autre islam, ou alors c'est un malin, cheval de Troie, en disant c'est comme ça que l'on peut le mieux entrer. On peut mieux se faire écouter de l'Europe, parce que je pense qu'il y a vraiment, une tentative d'islamiser l'Europe. Ils se trouvent maintenant en Europe, et comme ils savent que l'islam ne peut pas se moderniser, eh bien, ils islamiseront la modernité. Seulement notre ami Benchir, lui, qui a tout à gagner. Vous avez vu le poste qu'il a?
Oui.
Après avoir quitté son poste de moufti, il a un super poste de directeur de je ne sais pas quoi.
Oui, c'est ça. Institut islamique d'Europe.
Super poste. Donc, c'est pour eux, c'est vraiment leur fonds de commerce. Que ce soit M. Malek Chebel, qui est à la fondation américaine Lean, que ce soit M. Soheb Benchir, qui a tous les honneurs et qui représente le prophète d'un nouvel islam, que ce soit M. Raleigh Benchir, qui est à la fois l'émission France 2 et qui est le président de l'Alliance mondiale des religions, ils sont tous dans le fromage. Et je me dis, merde, moi je regrette, mais tous ces gens, que ce soit les merdias, qui en quelque sorte gagnent super bien leur vie, que ce soit tous ces gens qui sont planqués, qu'ils ont des rentes pour en quelque sorte donner un discours qui plaît à Sarko, Anko et compagnie, eh bien moi je regrette, moi en tant que Française de la base, je dis je vous emmerde. Petite islamologue normande, je dis vous faites chier. Vous êtes en train de me dire que blanc est noir, ou noir c'est blanc, et moi je dis non. Voilà ce que je voulais dire. Je m'excuse.
Bah, pourquoi vous vous excusez?
Non, je veux dire non, mais Madame j'en ai marre de servir la soupe à des gens pour qui c'est en quelque sorte le fonds de commerce, enfin merde. Vous ouvrez Coran au hasard et vous dites, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et moi, je prends des tafsirs et tafsirs et merde, ça fait je sais pas combien de lustres que j'écoute, que j'étudie ça. Le pauvre Arnaldès qui est mort, eh bien, il a dit au père Borman, c'est une lettre presque privée, il a dit, non, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est un peu l'équivalent de Mein Kampf dans certaines de ses prescriptions. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Vous pouvez le lire sur le forum. Et personne n'ose le dire parce que tout le monde se dit, oh, je vais choquer, je vais exciter la haine, je vais aller devant les tribunaux, etc., etc. Vous avez vu, pour avoir dit simplement qu'il pouvait avoir un lien entre une pratique exagérée de l'islam et un comportement au 11 septembre, car ce n'était pas des Danois qui ont jeté, effectivement, vous voyez, qui se sont jetés sur les tours, eh bien, notre ami Souhey Benchir était menacé d'un procès. Est-ce normal? Non, c'est pas normal.
C'est anormal.
La liberté d'expression, c'est de dire ce que l'on pense, où l'on veut et comme on veut. C'est pour ça que j'étais vraiment énervée quand j'ai vu l'interview de Souhey Benchir par votre consoeur,
oui.
Mais... dire, vous ne croyez pas, M. Benchir, vous représentez un islam libéral, est-ce qu'il n'y a pas un islam frileux libéral, quand même? Mais bien sûr que l'islam, si vous prenez l'islam dans sa pratique complète et totale, mais c'est sûr que ça va faire un clash avec nos valeurs, car c'est radicalement opposé. Et ce qu'on ne dit pas non plus, quand vous aurez quelqu'un qui va mourir, qui est musulman et qui meurt au Canada ou en France, il ne va pas être enterré en terre chrétienne parmi les tombes avec des croix. Il va être enterré, il doit avoir dans un carré musulman, parce qu'il ne peut pas supporter d'être avec des infidèles. Il va falloir qu'il ait ou un cimetière musulman, il sera enterré à même la terre, et jamais on ne fera attendre son cadavre plus de, vous voyez, c'est-à-dire qu'il doit être enterré presque tout de suite, vous voyez, et pas dans un cercueil, et on ne fera pas attendre son cadavre comme on a fait pour le pauvre Arnaldès, pour justement la gloire du père Morlon, qui franchement c'est une honte.
En terminant,
vraiment, vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne sera pas enterré n'importe comment, n'importe où, ça veut dire qu'il ne s'intègre pas même dans la mort.
C'est
le paradis qui est conditionné par là. C'est pour ça qu'ils veulent tous aller au pays. Parce que être dans un cimetière avec tout le monde parmi n'importe quelle tombe, c'est impossible. Et M. Souhey Benchir, il ne vous le dira pas, ça. Il faut d'abord que la toilette du mort, tout le monde fait les toilettes, qu'on lui fouille l'anus et qu'en quelque sorte, on lui bouche les orifices, etc. La toilette mortuaire, elle est plutôt marrante, je la décrirais. Mais ce n'est pas ça qui est important.
Madame
c'est
Delcam.
Qu'il doit être enterré à même la terre.
Madame Delcam.
La direction de la Mecque, encore, on s'en fout, on peut la chercher. Mais imaginez-vous qu'il n'y ait dans un cimetière, il y a des cimetières, il y a des croix. Or, la croix, c'est insupportable. On raconte que dans le châtiment de la tombe, quand les anges interrogeront justement ceux qui sont morts, eh bien, le fait d'être enterré dans un cimetière chrétien, ça lui fera péter la tête. Et c'est pour ça que certains préfèrent le martyr. Parce qu'au moins, si vous mourrez en martyr, vous allez directo au paradis et vous échappez au châtiment de la tombe. Vous n'avez pas à passer à savoir est-ce que je vais... C'est interdit l'incinération.
Madame
c'est
Delcam.
Interdit aussi d'exhumer le cadavre,
Madame
bien
Delcam.
Sûr.
Je sais que...
Alors,
Madame Delcam,
ça,
Madame Delcam, Arne,
stop. Le moyen de passer par-dessus les pompes funèbres, c'est d'aller directo, je me fais exploser et hop là.
Il faut la stopper.
Vierge.
Madame Delcam, calmez-vous.
Non, mais je suis très énervée.
Je le sais.
Je suis très énervée parce que, si vous voulez, on cache tout ça aux gens. On leur dit pas qu'ils c'est mangent vrai. Maintenant de la viande halal dans tous les McDo parce que c'est plus simple pour quelqu'un d'acheter de la viande consommable par tout le monde. Après tout, les cons, les bosses de Français, ils peuvent manger de la viande halal, c'est pas ça qui les fera mourir, puisque de toute façon, les chrétiens, ils bouffent tout. Que ça soit sacrifié.
Est-ce que vous auriez quelque chose à dire, Madame Delcambre, en terminant, aux Américains? Est-ce que vous auriez quelque chose de bien à dire aux Américains en ce 11 septembre 2006, en terminant?
Moi, je dis que j'oublierai jamais. Que le 11 septembre, d'accord, ils ont payé vraiment le prix fort, mais ça a fait changer des choses. C'est-à-dire que rien ne sera plus comme avant. Et je pense que pour tous les menteurs, les hypocrites, eh bien, ça a été en quelque sorte la sanction du réel. On s'est dit, mais attendez, là, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Et c'est pour ça que, quoi qu'on en dise, eh bien, leur exemple, ça a porté fruit. C'est affreux de dire ça, mais ça n'a quand même pas servi à rien. ça servit à quelque chose.
Effectivement. Merci, Madame Delcam.
J'ai été gentil.
Je vous ai donné 12 minutes de plus.
Je sais. J'ai vu ça. J'en suis très touché.
Mais ça, c'est parce que je vous apprécie beaucoup et j'aime ce que vous faites.
Merci beaucoup.
Je le dis à toutes les fois, mais ça sera jamais assez. D'accord?
Merci beaucoup. Non, je sais. Merci beaucoup, Ismaël.
On a besoin de vérité. Et,
oui, parce que vraiment, il faut le dire.
On essaie, avec notre station de radio, de faire en sorte. Je pense que c'est le dernier coup.
Je crois.
Je tente, je ne sais pas comment expliquer ça, Mme Delcam, mais je tente un dernier coup de vérité.
Ben moi, je fais la même chose que vous. J'essaie, c'est-à-dire qu'en mettant un fil dans le Coran sur le droit musulman, en expliquant, en illustrant, en revenant, en expliquant de manière différente, en reprenant d'autres, d'une autre... Vous voyez, je crois qu'on fait le maximum, hein. Vraiment, je crois que vous et moi, on fait le maximum. Mais pas seulement moi, hein, Super Résistant et tous ceux qui interviennent et tous les gens du forum et tout, hein.
Parce que, vous voyez, la semaine passée, il y a des gens qui ont essayé de hacker, si vous voulez, l'ordinateur avec lequel... Parce que j'ai un ordinateur devant moi, et c'est un ordinateur de mise en onde. Et disons que vendredi passé, j'avais de la difficulté à continuer ce que je fais comme travail du lundi au vendredi. C'était très sincère. J'ai eu de la difficulté à remonter un peu la pente vendredi passé. Parce que on dirait que la vérité, toute vérité, selon certains...
Ben c'est sûr que ça dérange.
Toute vérité n'est pas de bonne à dire. Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas.
Exact.
Je crois que la vérité fait bouger les choses et fait avancer. Peut-être des fois d'une manière négative certains dossiers, mais c'est nécessaire. Sinon, on va périr en tant qu'entité, en tant que société, si on ne travaille qu'avec le mensonge.
En tout cas, moi, chaque fois que je fais une intervention, je fais comme si c'était la dernière, en disant je vais en lancer le maximum. De façon à ce que ça, si vous voulez, je me dis, ben, je reprendrai la prochaine fois, mais d'une autre manière, mais au moins, ça sera déjà passé, ça. Ça fait quand même 21 interventions, hein.
Effectivement. Et j'espère, je souhaite de tout cœur qu'on pourra en faire des milliers. OK?
Voilà, c'est mignon.
C'est
bien.
C'est ce qu'il faut faire. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, à grands coups de pied dans le cul, toute ma vie. J'ai fait avancer les choses parce que j'étais tenace. Et je pense que vous êtes une femme
qui me semble tenace, hein? Être
persévérante et tenace.
Oui, donc c'est pour ça que je pense que c'est bien. En plus, ce que vous avez, c'est un atout considérable. Vous avez le Coran maintenant, donc c'est bien. Je peux vous dire, voilà, c'était Al-Sourate. Hein, j'invente rien, hein, contrairement à ce que certains pensent. D'ailleurs, j'aurais du mal à inventer quelque chose aussi horrible.
Effectivement. Madame Delcam, je vous dis un beau bonjour. Passez une bonne fin d'après-midi de votre côté et on se reparle lundi.
Le lundi, ça s'est passé dans les mœurs.
Exactement. Au revoir. D'accord. Je vous aime bien. Bye bye.
Bye.